Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, elle débutera demain et durera jusqu'à dimanche prochain. Pour nous en parler, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz, sera l'un de nos invités. Saisie par les parents de deux Françaises retenues dans des camps en Syrie avec leurs enfants, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, condamnation pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes. Gros plan dans votre édition sur la crise de l'énergie en France, nous l'évoquerons avec Karim Ziabat, élu à Cergy. Il était l'invité de Pluriel hier soir, extrait dans votre journal. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles déposées à Paris a progressé de 30% par rapport à 2021, une annonce de la procureure de la République de Paris. Le début demain vendredi de l'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, une première journée rythmée par des conférences à l'Institut du Monde Arabe. Cette université d'été se déroulera jusqu'à dimanche prochain. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz.
La Grande Mosquée de Paris est constituée en fédération, c'est-à-dire qui réunit plusieurs lieux de culte. Au-delà du bâtiment lui-même de la Grande Mosquée de Paris, nous avons 160 imams, nous avons 400 mosquées, nous avons des présidents d'associations qui sont dans cette fédération. Et à ce titre-là, aujourd'hui, je considère qu'il est nécessaire que nous puissions nous retrouver dans un moment d'échange, de débat, à la fois pour que, en interne, nous puissions créer cette concordance dans notre discours, qu'il y ait des éléments de langage communs, déterminer ensemble la stratégie de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, son message, qui, bien évidemment, date depuis son ouverture en 1926. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait qu'on se retrouve pour un long week-end qui commencerait donc le vendredi à l'Institut du Monde Arabe. Au-delà de ça, nous allons débattre des questions de société, des questions qui sont importantes. Et ne cachons pas les choses. Aujourd'hui, notre religion, ici en France, crée une forme d'appréhension. Les Français se posent des questions et nous devons tous ensemble pouvoir répondre et dire quelle est la place de l'islam et des musulmans dans notre société, dans ce pays qui est la France. Nous allons pouvoir échanger et je souhaiterais que la doctrine de la Grande Mosquée de Paris soit raffermie. J'ai déjà donné un certain nombre d'actes concrets qui montrent que la Mosquée de Paris, c'est l'islam du juste milieu, l'islam de la fraternité, de la solidarité, celle d'aller vers l'autre quand il est dans la souffrance, reconnaître les autres cultes, les respecter, leur donner la place qu'ils ont dans notre société multiculturelle. Et en même temps, que les imams de la Grande Mosquée de Paris, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, puissent également transmettre cet islam, l'islam de nos aïeux, l'islam d'ouverture, l'islam intelligent, pour ne plus être dans cette position d'appréhension de la société française. Et à ce titre-là, il y a plusieurs tables rondes qui vont avoir pour thème les grandes préoccupations au sein de la société française, notamment l'adaptation du discours religieux musulman aux lois de la République. J'ai toujours affirmé que l'islam n'est en rien incompatible avec les principes et les lois de la République. Donc nous allons le rappeler, comme l'égalité homme-femme, comme le rejet de toute forme de racisme, mais en même temps, toutes les questions sur un certain nombre de croyances qui sont complètement dépassées, du refus de l'apostasie, de l'existence à l'intérieur de l'islam, de la liberté de conscience absolue et du libre arbitre de chaque musulman et chaque citoyen dans la société. Donc on a un vrai travail et j'espère qu'à la fin de cette université d'été, nous allons publier à la fois les actes et les rappels sur la position de la Grande Mosquée de Paris par rapport à toutes ces grandes questions de la société française. Je crois qu'il est impérieux, dans l'ambiance actuelle, que la Grande Mosquée de Paris donne sa position.
Vous évoquez une crispation à l'égard de l'islam. Faire face à cette crispation, cela passe, vous le dites, par l'échange, par le dialogue.
Oui, d'abord que nous expliquions ce qu'est l'islam, parce que beaucoup de gens, et même dans notre communauté, les musulmans, peu connaissent véritablement ce qu'est l'islam. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de nos enfants, leur expliquer ce qu'est l'essence même de l'islam. Et donc il y a une vraie pédagogie à mettre en place pour que les jeunes musulmans puissent, dans la société française, dire ce qu'est l'islam. C'est pas l'islam du rejet de l'autre. L'islam n'a jamais rejeté les autres. Il y a des versets coraniques qui sont extrêmement clairs sur la lutte contre le racisme. Il n'y a pas de beau, de vilain, de petit, de jaune, de noir, de blanc. Il y a des êtres humains qui ont un cœur, qui ont une âme et qui sont pour notre créateur, qui sont tous égaux. La bienveillance, le voisinage, la relation avec l'autre sont des éléments qu'il faut aujourd'hui que nous expliquions à nos jeunes et aux autres membres de notre communauté nationale qui ne sont pas musulmans et qui doivent comprendre ce qu'est véritablement l'islam, le vrai islam, comme je le disais, l'islam du juste milieu. Et nous devons absolument faire cet effort pour expliquer cette religion qui est aujourd'hui méconnue et qui est travestie, qui est utilisée, instrumentalisée. Et moi, je veux absolument que la Grande Mosquée de Paris puisse être, comme elle a toujours été, le phare de l'islam de France. Et nous avons vu que pendant toute l'histoire des recteurs de la Grande Mosquée de Paris, des imams de la Mosquée de Paris, ce sens de la fraternité pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis dans toutes les circonstances où il y avait des risques, je dirais, de crispation entre les communautés religieuses, la Grande Mosquée de Paris a joué toujours ce rôle de sagesse qui a été caractéristique de cette Grande Mosquée.
Et c'est une université d'été qui va se dérouler dans un moment important pour la Grande Mosquée de Paris qui va bientôt célébrer le centenaire de la pose de la première pierre de cette institution.
Absolument, on est effectivement, comme vous le dites, à la veille de la commémoration du centenaire de la pose de la première pierre qui est un moment important. Donc, avec cette manifestation qui est le 19 octobre 1922, il y a eu à la fois un acte religieux important, c'était la fixation de la Mecque. À l'époque, c'était des imams avec le recteur Khadr Bonrabrit que cette recherche a été faite. Et puis, il y a eu des discours d'autorités militaires et civiles qui ont marqué cette date importante et j'ai tenu vraiment à ce que le 19 octobre 2022, nous puissions à la fois présenter cette architecture qui est exceptionnelle, qui est l'art même de l'islam, cette architecture arabo-musulmane, dans un quartier qui est un quartier très important, hein, ce qu'on a appelé le quartier latin, juste à côté du Jardin des Plantes, à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. C'était vraiment le lieu, je dirais, de toute l'intelligentsia française où on a décidé d'installer cette mosquée. Donc voilà, c'est un moment important où les musulmans vont bénéficier de cette reconnaissance qui est la commémoration du centenaire et qui montre que la France a à la fois connu l'islam déjà à cette époque, mais a apprécié l'islam à sa juste valeur. Et il est important de le rappeler, surtout à nos jeunes, que l'islam a toujours été respecté et considéré. Et c'est quand même le message que nous voulons aujourd'hui véhiculer pour rappeler que les crispations ne se font qu'au détriment de notre communauté nationale. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui.
Et il est important de rappeler l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, qui a été conçue comme un geste pour commémorer la mort des soldats indigènes lors de la Première Guerre mondiale.
Absolument, c'est non seulement cette commémoration qui est importante, parce qu'il faut rappeler que des milliers de musulmans sont morts pour la France, et que le sacrifice fait par ces musulmans a été récompensé, a été une forme de reconnaissance, avec à la fois la construction de la mosquée de Paris, mais pour certains qui ne connaissent pas vraiment cette histoire, au même moment, il a été question de la construction d'un hôpital, qui est aujourd'hui l'hôpital Avicenne, dont l'architecture est très proche de celle de la mosquée de Paris, parce que l'architecte qui a conçu les plans de la Grande Mosquée de Paris était celui qui a conçu les plans d'architecture de l'hôpital Avicenne. Il y a eu un cimetière qui est aujourd'hui celui de la mairie de Bobigny. Il y a eu un foyer d'immigrés Donc il y a une multitude de projets qui ont été à ce moment-là imaginés. Et puis, les aléas ont fait qu'on n'a pas pu tous les réaliser, mais la mosquée de Paris, elle a été construite dans une période de 5 années. Et on voit quand même que la symbolique était très forte, parce qu'encore une fois, accepter une telle architecture au milieu de la capitale, et je considère la mosquée de Paris comme le symbole de l'islam des Lumières dans la ville des Lumières, et je crois que c'est important de le rappeler.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Chemseddine Hafiz, et sachez que notre collègue Loïc Barrière animera demain après-midi l'une des tables rondes de cette université d'été au sein de l'Institut du Monde Arabe à Paris. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France à réexaminer les demandes de rapatriement de familles de djihadistes en Syrie. Après cette décision, la France s'est dite prête à envisager de nouveaux rapatriements chaque fois que les conditions le permettront. La CEDH avait été saisie par deux couples de Français qui avaient demandé en vain aux autorités françaises le rapatriement de leurs filles. Il s'agit de deux jeunes femmes, compagnes de djihadistes et de leurs 3 enfants. Elles sont retenues depuis début 2019 dans les camps d'Al-Hol et de Roj dans le nord-est de la Syrie. La diplomatie américaine annonce un nouveau financement d'aide humanitaire à destination de la Syrie, une aide de 756 millions de dollars. Les États-Unis rappellent que les besoins des personnes déplacées restent urgents après plus de 10 années de guerre. Ce financement s'ajoute à une autre enveloppe de 808 millions de dollars annoncée plus tôt cette année. Un adolescent palestinien a été tué par l'armée israélienne. C'est arrivé lors d'une opération menée près de Jénine, une annonce du ministère palestinien de la Santé. Ce secteur du nord de la Cisjordanie occupée est le théâtre de vives tensions ces derniers mois. Les prix du carburant poursuivent leur forte augmentation au Liban dans un contexte de très grave crise, notamment économique. Les nouveaux tarifs ont été annoncés ce jeudi matin par le ministère de l'Énergie. 20 litres d'essence à 95 octanes coûtent désormais 680 000 livres libanaises, 696 000 pour le 98 octane, 839 000 pour le 20 litres de diesel. Quant à la bonbonne de gaz, elle coûte 372 000 livres libanaises. Gros plan sur la crise de l'énergie en France. La hausse des prix du gaz et de l'électricité sera plafonnée à 15% pour le gaz en janvier prochain, 15% pour l'électricité en février. Une annonce hier de la première ministre Elisabeth Borne. Karim Ziabat, élu à Cergy en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, était l'invité de Pluriel. Hier soir, il est revenu sur cette situation extrême de cette émission.
Quand on voit aujourd'hui l'augmentation des tarifs qui débute déjà et qui va forcément s'accentuer dans les semaines et les mois à venir, forcément le pouvoir d'achat va en pâtir. Donc personne n'est prêt aujourd'hui à assumer cette hausse des tarifs. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment le choix face à cette hausse. Et donc, il y a des solutions. Les solutions, c'est celle de l'adaptation. L'adaptation, elle est possible pour certains et pour certaines. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Vous avez parlé effectivement, à juste titre, des collectivités. Moi, je suis directeur de cabinet dans une commune où, justement, nous avons décidé de nous adapter. Et donc, on a des mesures très concrètes qui sont, par exemple, la baisse des températures dans les bâtiments publics. Et donc, dans les bureaux, au lieu qu'il fasse 21 degrés, à partir de demain, il fera 19 degrés dans les gymnases, dans les écoles. Et donc, c'est des sacrifices qui sont faits pour à la fois faire baisser les factures d'électricité et aussi pour contribuer à l'effort. Là où c'est plus compliqué, c'est chez les Françaises et les Français qui vivent parfois déjà dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont très peu isolés, très mal isolés, et qui vivent déjà le froid de manière régulière tous les hivers et qui vont devoir encore faire plus d'efforts.
Karim Ziabat, les Français vont devoir vivre aussi avec des risques de pénurie dans les supermarchés en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi en raison de la sécheresse qui va avoir des conséquences sur la production de certains produits alimentaires, sans oublier aussi la chaîne du froid qui coûte beaucoup en termes d'utilisation d'électricité et de gaz. Comment gérer une telle situation anxiogène ?
C'est effectivement extrêmement compliqué, c'est-à-dire que d'un côté on entend l'explosion des tarifs et de l'autre on voit que dans les supermarchés les rayons ne sont pas pleins comme on a pu le connaître pendant des années. Moi je crois que d'abord il faut dire les choses très clairement. On a des gens qui aujourd'hui profitent de cette crise pour augmenter leurs tarifs, pour créer justement des pénuries et pouvoir bénéficier de la crise. C'est ce qu'on appelle les profiteurs de la guerre, les profiteurs de crise. Et d'ailleurs, le président de la République les avait déjà dénoncés à plusieurs reprises. Et quand aujourd'hui on entend les interventions de quelqu'un comme M. Leclerc qui intervient régulièrement, il explique bien que quand on a des pénuries de cacao, il n'y a aucun lien avec la crise ukrainienne. Et donc c'est qu'à un moment, on a des gens qui ont décidé de créer ces pénuries pour pouvoir justement jouer sur les prix et très concrètement profiter de la crise en se faisant plus d'argent. Donc il faut d'abord cibler là où on a des gens qui sont des profiteurs de crise pour pouvoir réguler le marché, parce que le marché a besoin de régulation. Et tant qu'on laissera le marché avec des déviances qui ne répondent qu'à l'offre et la demande, forcément, on va avoir des choses vicieuses comme cela. Donc maintenant, il faut que l'État puisse réguler le marché.
Karim Ziabat, élu à Cergy en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté. Il était l'invité de Pluriel hier soir. Émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez écouter sur votre site internet radioorient.com. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles déposées à Paris a progressé de 30% par rapport à 2021. Une annonce aujourd'hui de la procureure de la République de Paris. Elle évoque une hausse objective des faits, mais aussi une hausse liée à la libération de la parole. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Il est midi 16. À midi 30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.